Selon les professionnels de la santé, le TDAH se décrit comme un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par une difficulté persistante à moduler l'attention, qui entraîne des erreurs d'inattention, une difficulté à maintenir l'attention de façon soutenue, à résister aux stimuli distracteurs, à organiser, débuter et terminer une tâche, des oublis et une tendance à égarer ou perdre ses objets. Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, je reçois Erika, qui est étudiante au doctorat à McGill en neuropsychologie et qui fait fréquemment des évaluations neuropsychologiques, entre autres pour TDAH, mais aussi pour troubles, conditions, etc. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui, Erika, parce que je pense que c'est un sujet que les gens, que ce soit avant leur diagnostic, même pendant ou après, ont peut-être des difficultés à comprendre parfois qu'est-ce que ça fait un neuropsy. C'est vraiment de ça qu'on va parler, de ton futur métier. Qu'est-ce qui est évalué dans ces fameuses séances-là, les stratégies, etc., tout ce qui peut être mis en place. Donc, merci beaucoup de prendre le temps avec moi aujourd'hui. Je sais que tout le monde va être très heureux de t'entendre.
Merci de me recevoir. Je suis vraiment excitée d'être ici.
Oui. Donc, en fait, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton futur métier? C'est quoi être neuropsy?
Oui. Fait que dans le fond, la neuropsychologie, c'est comme une branche de la psychologie clinique. Fait que dans le fond, tous les neuropsychologues sont tout d'abord psychologues cliniciens. Fait que dans le fond, on fait nos études en psychologie clinique, puis on développe une expertise en neuropsychologie. Donc, qu'est-ce que ça fait un neuropsychologue? C'est que ça fait un genre, avec l'évaluation neurocognitive, donc une batterie de tests, on fait un genre d'exploration des fonctions cognitives. Fait qu'on explore les fonctions du cerveau. Fait qu'on regarde des choses comme la mémoire, l'attention, le langage, la concentration, les fonctions visio-spatiales, les choses comme ça. Fait qu'on peut vraiment évaluer là, toutes sortes de patients. Ça va aller du TDAH, mais ça peut aller aussi au trauma crânien, aux tumeurs, ACV, etc.
Wow, OK, ça, je savais même pas que ça pouvait... Je savais que ça regroupait d'autres choses comme, entre autres, TSA ou même, je pense, même de l'anxiété, plein de choses comme ça, mais je savais pas que ça allait même jusqu'aux tumeurs.
Oui, oui, c'est ça. Ben l'anxiété, en fait, je dirais que c'est plus dans le domaine de la psychologie clinique. Fait qu'on va pas régulièrement faire des diagnostics là d'anxiété ou même de troubles de l'humeur, mais nous, on prend ça en considération lorsqu'on fait nos évaluations parce que là, on le sait que ben le trouble de l'humeur ou de l'anxiété peut imiter certains symptômes tels le TDAH, par exemple, le sujet de notre conversation aujourd'hui. Fait que nous, on prend vraiment l'humain qui est devant nous, on prend tout ce qui vient, tout le bagage qui vient avec, puis on essaye de résoudre le genre de puzzle, l'énigme de cette personne-là pour faire les meilleures recommandations pour l'aider.
Oui, c'est ça. Parce que même, tu sais, pour peut-être les gens qui nous écoutent puis qui ne savent pas, tu sais, même outre le diagnostic, par exemple, TDAH, peu importe, une fois, par exemple, que tu as le diagnostic TDAH, il peut avoir autre chose aussi, tu sais, justement, tu sais, les neuropsy peuvent trouver justement peut-être, tu sais, entre autres, oui, une anxiété reliée à ça, même des TOC, troubles obsessifs compulsifs. Il y a d'autres choses qui, le trouble d'opposition, qui peuvent être liées aussi à ça que vous êtes capable d'aller déceler, là.
Oui, on est capable de voir les comorbidités, fait que souvent, qu'est-ce qui va, tu sais, le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, hein. Fait que nous, notre but, c'est de voir si c'est un trouble au niveau neurologique. Donc, quand quelqu'un arrive puis il nous rapporte des symptômes d'inattention, etc., oui, on va penser au TDAH, mais il y a tellement autre chose qui peut expliquer ça. Donc, c'est notre métier, c'est notre devoir de regarder tous les autres facteurs qui pourraient expliquer les problèmes d'attention. Puis là, c'est là qu'on creuse dans les autres sphères comme l'humeur, puis aussi les changements de la vie. Est-ce que la personne a traversé un épisode très difficile en ce moment? Est-ce que ça serait un trouble d'adaptation? Fait qu'on regarde tous ces facteurs-là.
Super intéressant. Puis, tu m'as appris justement en préparation de ce podcast, on se parlait un peu, puis tu m'as appris, je ne savais même pas qu'on peut aller voir un neuropsychologue au public aussi. Moi, j'étais convaincue que c'était seulement au privé. Puis là, tu m'as dit qu'il y avait des possibilités au public. Je voulais peut-être qu'on démystifie un peu c'est quoi la différence entre les deux, outre les coûts, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une façon de faire différente?
Oui, mais c'est une bonne question. En fait, là, au Québec, il y a deux avenues qu'on peut recevoir une évaluation avec un neuropsy. La première, bien, c'est au privé. Donc, pour aller au privé, on n'a pas besoin d'une référence d'un docteur. Donc, on contacte le neuropsychologue, on le trouve en ligne, on fait un appel, puis on lui demande de faire une évaluation. Puis, bien, là, c'est là qu'on rentre dans le processus du privé. Par contre, c'est assez dispendieux. Mais la liste d'attente est relativement moins longue qu'au public.
Quand même assez longue aussi, oui.
Elle est quand même longue à cause que la demande, elle est extrêmement haute depuis surtout la COVID, là, je te dirais.
Ouais.
Beaucoup de gens, ont passé plus de temps avec eux-mêmes, puis là, ils ont découvert, tu sais, il y a beaucoup plus de réflexion, d'analyse de
Ouais.
soi, fait que là, ils font la demande au privé. Donc oui, une attente, mais je te dirais que c'est relativement vraiment mieux qu'au public. Fait que pour aller au public, c'est aussi une option si jamais on n'a pas l'argent de commencer le processus au privé. Mais pour aller au public, il faut une référence de son docteur.
OK.
Donc, on ne peut pas juste aller à l'hôpital puis demander une évaluation. Donc, si le docteur trouve, fait que ça, c'est un docteur de famille, par exemple, s'il y a un autre expert qui vous suit pour d'autres raisons, comme un neurologue, peu importe, un docteur va faire une référence. Puis, je te
Parfait.
dirais que la majorité des hôpitaux à Montréal ont une équipe de neuropsy. C'est le même genre d'évaluation. Il n'y a pas vraiment de différence. Ça va être le même genre de diagnostic. La seule chose, c'est que ça se peut que le neuropsy au public travaille plus proche avec d'autres professionnels de la santé. Fait que si jamais c'est un trouble qui... Sur le TDAH, c'est moins nécessaire d'avoir d'autres professionnels, mais si c'est un trouble qui est comorbide avec quelque chose d'autre, comme, je sais pas, disons que vous êtes suivi en psychiatrie à cause d'un trouble de l'humeur, ben, au public, on peut travailler très proche avec les autres professionnels qui font
OK.
partie du dossier médical. Fait qu'il y a comme on travaille plus en équipe, dans le fond, au public, mais
OK.
sinon, c'est pas mal identique, juste que l'attente est plus longue.
OK. C'est ça, ça. Au final, ça revient au même. Ben, ça revient, ouais, ça revient au même avec le diagnostic, mais un peu plus d'attente. Puis, versus le public, il faut quand même passer par son médecin. Fait qu'il faut un médecin de famille, là. Ça aussi, c'est un autre
C'est
combat
ça,
au
ouais.
Québec,
C'est une autre histoire.
là. Ouais, c'est ça. C'est un autre sujet qu'on rentrera pas
Oui.
là-dedans.
Non, merci.
Puis,
Puis,
une fois que. Oui,
je veux
vas-y.
juste préciser, puis c'est pas tous les troubles, par contre, que je suggérais d'aller au privé. Fait que, tu sais, qu'on
OK.
parlait de tumeur, d'ACV, trauma crânien.
Ouais.
Fait que si jamais c'est dans une phase plus aiguë, c'est vraiment mieux au public. Fait que pas nécessairement d'aller au privé. Mais les gens qui ont des troubles de commotion long terme, là, des problèmes qui restent au long terme, ça, ils peuvent aller au privé, mais sinon, non.
Ouais. Comme tu as dit aussi, j'imagine les gens qui font de l'anxiété, peut-être plus passer par un psychologue, pas nécessairement besoin de faire l'attente pour un neuropsy pour
Ouais, ça fait que ça, c'est vraiment du cas par cas, mais je pense que c'est une très bonne question que tu demandes là. Dans le fond, on peut faire le processus de psychologie, donc de la thérapie avec un psychologue, en même temps qu'on fasse une évaluation en neuropsy, parce que les deux touchent
OK.
deux domaines différents, des fois des problèmes différents. C'est sûr qu'ils travaillent ensemble, ces problèmes-là, mais des fois, nous, on suggère de commencer en psychologie. Parce que ce qui arrive,
OK.
ce qu'on remarque souvent, c'est que lorsque les gens adressent leurs problèmes d'humeur, des problèmes de symptômes dépressifs ou des problèmes de symptômes d'anxiété, ben soudainement l'inattention a envie de partir ou les problèmes de mémoire ont envie de partir. Fait que ça, déjà là, c'est un signe que c'est peut-être pas un TDA du tout, c'est plutôt un trouble de l'humeur ou un trouble d'anxiété qui imitait des symptômes de TDA.
Ouais, ben ça, on en voit beaucoup, là, entre guillemets, justement, des. Tu sais, moi, je me suis souvent fait dire dans ma vie, ah, oh, moi aussi, j'étais TDAH quand j'étais jeune, je le suis plus. Là, je suis comme, non, ça, c'est pas possible. C'est pas comme quelque chose que tu es capable de guérir, entre guillemets. Tu l'es toute ta vie ou tu l'es pas pantoute, là, tu sais. Mais aussi, justement, parce que peut-être qu'ils ont été mal diagnostiqués, entre guillemets, quand ils étaient jeunes, puis c'était relié à autre chose, là.
Ça, oui, soit qu'ils sont mal diagnostiqués à l'enfance ou ils ont tellement développé des outils puis des stratégies compensatoires qu'ils ne remarquent plus les effets de leur TDAH. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils l'ont outgrow, que ah, oh, je l'ai plus. Mais comme tu as dit, tu l'as toute ta vie. C'est un problème neurodéveloppemental. Ça reste avec toi. C'est juste que tu apprends à compenser. Fait que tu vas
Exact.
moins remarquer les symptômes. Fait que ça, c'est pas mal les deux options. Soit qu'ils l'ont jamais eu ou soit qu'ils ont trouvé des stratégies compensatoires.
Exact. Bon, on va pouvoir parler un peu plus loin des stratégies, mais je pense que ça vaut pour beaucoup. Puis moi, je le dis souvent, outre la médication,
tu dois apprendre à te mettre des stratégies aussi parce que le médicament ne fait pas tout. Tu sais, il aide, il donne comme un petit levier, souvent ce que je dis, mais oui. C'est vraiment pas tout. Là, tu sais, moi, j'en prends, puis que je prenne un médicament ou pas, si j'ai pas des stratégies, ça change pas ma personne. Là. Des fois, j'ai des amis qui disent, tu deviens-tu comme un... Quasiment comme ils pensent, je deviens comme un superwoman là, quand je pense à ça. Oui. Non, je dis même des fois, je m'en rends même pas compte. T'sais, il est dans mon corps, mais je suis même pas sûre que je le sais. T'sais, c'est vraiment plus que ça. Là.
C'est ça te ramène un peu à ton baseline, t'sais, à où est-ce que tu serais sans le TDAH. Mm-hmm. Fait que ça va juste comme mobiliser tes ressources attentionnelles. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais avec tes ressources maintenant que tu les as? Puis là, c'est là que les stratégies embarquent. Fait que non, la médication seule n'est vraiment pas la solution. Mm-hmm. Mais avec un TDAH sévère, parce que nous, on regarde la sévérité du TDAH.
Oui, il y a un degré, là, un peu. Là.
C'est ça. Puis ça l'informe nos recommandations. Fait que si tu as un TDAH sévère, là, c'est sûr que nous, on va recommander de parler à ton docteur de famille pour explorer les options de pharmacologie, OK, les stimulants. Parce que ça, justement, ça va te donner tous les outils. Tu sais, tu vas pouvoir te mobiliser. Puis après ça, là, tu appliques les choses dans ta vie au quotidien pour augmenter ton fonctionnement. Mm-hmm. Mais disons, avec un TDAH léger, ouais. La first line treatment qu'on appelle, ça va être peut-être plus l'intervention. On n'ira pas tout de suite vers la médication. On va voir sur la personne si c'était juste un manque d'outils, un manque de stratégie pour pallier, pour compenser.
Mmh. Puis qu'est-ce que, tu sais, je comprends que c'est beaucoup plus compliqué que ce que sûrement je vais te poser comme question, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un léger puis un sévère? Tu sais, je comprends, vous le faites au travers, tu sais, l'étude avec le patient, mais tu sais, des quelques points qui feraient comme, hey, ça, c'est quelqu'un de sévère, là.
Ouais, fait que c'est une très bonne question, puis ma réponse elle sera peut-être pas simple. Je vais essayer de la garder simple, mais le critère numéro un, ça serait l'impact sur le fonctionnement. Okay. Parce que pour avoir un trouble de diagnostiquer avec notre bible qu'on appelle le DSM, là on est rendu au DSM-5, on utilise ça pour diagnostiquer tous les troubles. Le critère qui traverse tous les différents troubles, puis qui s'applique aussi au TDAH, c'est que les difficultés doivent avoir un impact significatif sur le fonctionnement. Fait que si tu as des problèmes attentionnels dans la vie de tous les jours, mais tu n'as pas un impact significatif sur ton fonctionnement, on peut pas vraiment donner le diagnostic. Parce que ça devient pas une maladie, ça devient pas un disorder, ça devient pas un trouble, ça devient juste des difficultés, mais ce n'est pas un trouble. Okay? Fait que quand on essaie de regarder la sévérité, quelqu'un qui a un TDAH sévère, c'est quelqu'un qui va être significativement affecté par son TDAH. Fait que ça va nuire à l'école, ça va nuire dans sa vie au quotidien, parce que faut garder en tête aussi qu'un TDAH, ben ça touche toutes les sphères, pas juste l'école.
C'est ça que j'allais dire.
C'est une partie du diagnostic, ça.
Ouais, ce que j'allais dire, souvent, ce qu'on oublie, mais ça touche beaucoup les relations que tu as dans ta vie, fait qu'avec ta famille, chum, blonde, ami, on pense que c'est juste avec l'école ou le travail, là, mais ça touche vraiment plus, là.
Exactement. Fait que nous, on regarde ça. Par la suite, ben on regarde les fonctions attentionnelles eux-mêmes. Est-ce que sont significativement déficitaires ou sont peut-être relativement plus basses que le potentiel intellectuel de l'individu? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est soit que comparativement aux autres personnes de votre âge, où est-ce que vous vous situez? Si c'est déficitaire, beaucoup déficitaire, ça veut dire que la fonction, elle est extrêmement impactée.
Okay,
puis si c'est relativement plus bas que les autres fonctions, peut-être que c'est pas sévère, c'était plus modéré. Fait qu'on utilise tout ça. Les résultats eux-mêmes vont pas nous parler de la sévérité, mais les résultats et le fonctionnement ensemble vont nous informer du degré de sévérité des symptômes.
Je comprends. Puis justement, ben tu l'as expliqué un peu, mais comment un diagnostic peut être posé? Tu sais, si tu peux nous expliquer, c'est quoi les étapes? Tu sais, comme il y a souvent 3 séances, là, mais tu sais, quelles sont les étapes vraiment pour arriver ou pas, là, tu sais, au diagnostic en général?
OK. Donc, le processus de diagnostic au Québec, c'est pas juste les neuropsychologues qui sont en mesure de diagnostiquer. Dans le fond, tu peux aller voir ton docteur de famille, rapporter tes symptômes, puis ton docteur de famille peut poser un diagnostic de TDAH. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont offrir de la médication tout de suite. C'est comme un automatisme pour la plupart des docteurs. Puis là, ben là, on rentre dans le débat, est-ce que c'est surmédicamenté? Ouais. Fait, en tout cas,
mais j'ai lu quelque chose aussi qui voulait peut-être justement un peu comme réglementer plus ça aussi, là, justement, les médecins qui peuvent en donner peut-être plus facilement, puis que ça devienne vraiment suite à une évaluation avec un neuropsy, un psychologue, etc.
Ouais. Mais c'est ça, je te dirais qu'il y a vraiment un changement au niveau de la mentalité, là. Maintenant, il y a beaucoup de docteurs de famille qui se sentent pas à l'aise d'offrir des psychostimulants sans avoir investigué beaucoup plus creux. Ouais. Puis justement, pour faire ça, ils réfèrent en neuropsychologie. Puis, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à faire ça parce que l'attention, c'est assez complexe. Il n'y a pas une forme d'attention. Il y en a vraiment plusieurs. Mm-hmm. Il y a l'attention soutenue, l'attention divisée, l'attention sélective. C'est vraiment la vigilance, c'est tout des formes d'attention que nous, on évalue en neuropsy. Fait qu'on est capable d'isoler ces sortes d'attention-là puis de les regarder spécifiquement. Puis, ben, en plus, on regarde les autres fonctions. On regarde la mémoire, on regarde le langage, on regarde la planification, l'organisation. Puis nous, ça nous aide à voir les faiblesses puis surtout les forces des individus. Fait que là, en sachant tout ça ensemble, on est capable de faire des recommandations de comment que l'individu peut utiliser ses forces pour pallier à ces difficultés attentionnelles. Fait que ça a vraiment un profil beaucoup plus complet de qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif. Puis, ben ça l'amène à des meilleures recommandations que juste regarde voici ta prescription.
Ouais, c'est ça. Tu es TDAH, bonne chance dans la vie.
Prends une pilule à chaque jour, puis t'es correct. C'est bye!
C'est ça. Puis, bonne chance. Ouais, il y a beaucoup de médecins, malheureusement, que c'est comme ça. Puis, d'une certaine façon, je comprends, dans le sens, pas à eux à faire l'éducation nécessairement sur le TDAH, même si, rendu là, je me dis, tu prescris quand même un médicament qui est considéré fort, là, on va se le dire. Il faudrait qu'il y ait une certaine, peut-être, éducation, là. Moi, ben ça fait longtemps que j'ai un TDAH, là, que je suis diagnostiquée, mais mon médecin, à chaque fois, je lui apprends des choses sur le TDAH. Puis, tu sais, pourtant, j'ai aucune étude, ça reste de près ou de loin, ils sont en psychologie, en médecine, mais je fais tellement de lectures, de recherches, je m'intéresse à ça. Puis, à chaque fois, je suis comme, hey, ça l'influencerait ça aussi dans mon corps. Hey, il y a ça. Puis, à chaque fois, il est comme, ah, je sais pas. Tu sais, je pense que, clairement, les médecins pourraient creuser quand même un petit peu plus, là, parce que quand ça l'affecte des choses sur, outre, c'est peut-être comme justement dans la vie de ton patient, tu sais, par exemple, les carences de fer, etc. Il y a plein de choses que c'est comme ça peut aller chercher. Je pense qu'il pourrait clairement bénéficier à s'y intéresser un peu plus.
Ouais. Mais à leur défense, c'est des généralistes, donc c'est pas les experts dans le domaine. Fait qu'un bon docteur va référer à l'expert. Ouais. Puis, ben un expert des fonctions cognitives, c'est vraiment les neuropsychologues. Donc, on a vraiment remarqué un changement là, au niveau de la mentalité. On reçoit beaucoup plus de références, même au privé, je te dirais, des docteurs. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est pas nécessaire d'avoir une référence, mais il y en a beaucoup qui arrivent avec une référence pareille au privé.
Je comprends. Puis, à travers le diagnostic, justement, ben les séances que vous rencontrez la personne, là, il y a comme plusieurs types de tests, etc. À la fin, par exemple, diagnostic de TDAH, c'est quoi la suite, t'sais, outre, justement, t'sais, vous faites pas juste dire, bon, ben tu as ton TDAH, félicitations, bonne vie, là. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Ouais, et je peux parler un petit peu du processus. Ça dépend vraiment, honnêtement, du neuropsy. On le fait tous différemment, mais je pense que la structure demeure similaire. Donc, ça commence toujours avec une rencontre initiale, une entrevue clinique. Donc, ça, normalement, c'est de 1 heure à 2 heures. Puis, c'est vraiment là qu'on parle de l'historique des symptômes, des comorbidités, de la structure familiale, c'est très important aussi. L'environnement dans lequel la personne travaille, est-ce que c'est un environnement très stressante, etc. Puis on apprend vraiment à connaître l'individu. Par la suite, à une deuxième rencontre, c'est là que l'évaluation psychométrique qu'on appelle commence. Donc, on fait la batterie de tests. Puis normalement, ça peut durer de 4 heures à 5 heures. Là, moi, je parle pas dans les enfants parce que les enfants, c'est des évaluations pédiatriques.
Ouais, c'est
donc, c'est plus long pour un enfant, normalement. Mais disons, chez l'adulte, là, ça serait 4 heures, peut-être maximum 5 heures de tests qui regarderaient toutes les fonctions. Par la suite, nous, de notre côté, il faut regarder les résultats, regarder comparativement la norme, puis on écrit un rapport. Donc, le rapport, ça dépend. Des fois, ça peut être un rapport abrégé ou ça peut être un rapport plus long. Puis souvent, le rapport est soit pour des accommodations au niveau de l'école, donc l'université qui a des accommodations puis qui ont besoin d'un diagnostic, ou ça peut être aussi pour le médecin de famille ou même le psychologue qui traite aussi le patient, le client. Puis, par la suite, à une troisième rencontre, c'est souvent la remise des résultats. Donc ça dure environ une heure où est-ce qu'on rencontre le patient ou le client, dépendamment si on est au privé, puis on explique les résultats, nos conclusions cliniques ainsi que les recommandations. Puis ben la partie recommandation, c'est vraiment la partie plus importante. T'sais, les résultats eux-mêmes ne veulent rien dire sans contexte. Fait que nous, on offre le contexte, nos conclusions, puis on dit, bon, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, on regarde les forces du patient, du client, puis on lui dit comment il peut utiliser ces forces-là pour pallier à ses difficultés. Puis, on va aussi offrir des stratégies, des outils, justement pour aider avec les difficultés. Fait que là, c'est pas tous les neuropsychologues qui offrent de l'intervention, OK? Donc, au public, c'est rare que tu vas avoir de l'intervention, de l'aide par la suite, d'un genre de suivi en neuropsychologie. Mais ça va arriver dans les cas là, de problèmes neurologiques, là, telle l'épilepsie, tumeur ACV. Ça, oui, ça s'appelle la réhabilitation, mais disons pour un TDAH, il n'y en aura pas vraiment.
Ça va être plus ton diagnostic, puis va trouver tes ressources toi-même.
Ben oui, ou on va faire des recommandations comme, bon, faut faire une référence à un CLSC, par exemple, pour avoir un genre de suivi-là, etc. Mais au privé, ça peut arriver que les neuropsies offrent un suivi. Donc, un suivi aux semaines, un suivi aux deux semaines. Puis, dans ces suivis-là, c'est rare, mais il faut le demander aux neuropsies. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais il faut le demander. Par exemple, moi, à la clinique où est-ce que je travaille, on en offre. Donc, la neuropsychologue, elle fait un suivi à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Puis, dans ce suivi-là, elle parle de stratégie, d'outils. Après ça, le client va l'appliquer à la maison. Après ça, va revenir, dire « ouais, ça a fonctionné, non, ça n'a pas fonctionné ». Fait que c'est beaucoup de brainstorming puis de travail collaboratrice, là, donc avec le neuropsy. Mm-hmm.
Je comprends. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est… Ça devient un peu une formule, si je peux dire, clé en main, là, dans le sens où il n'y a pas une façon de faire TTDAH, voici un peu la recette. Vous l'adaptez vraiment à chaque personne selon son style de vie, puis vraiment les résultats.
C'est ça, c'est très, très, très personnalisé. Puis c'est vraiment un des bénéfices d'aller en neuropsychologie parce que nous, l'individu, on ne traite pas le TDAH, on traite l'individu avec un TDAH. Mm-hmm. Puis on prend en compte vraiment tout l'environnement, si la personne a un support social important ou non. Tu sais, on prend vraiment aussi notre formation de clinicien aussi en psychologie. Mm-hmm. On travaille aussi un peu sur l'humeur, l'anxiété, comment qu'on peut gérer ça pour améliorer les fonctions cognitives. Fait qu'on fait pas de psychothérapie, mais dans nos interventions, c'est sûr qu'on parle de l'humeur puis de l'anxiété, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment individualisé.
Parce qu'il y a quand même aussi, je me souviens plus de la statistique, peut-être que toi-même tu la connais là ou peut-être pas, mais un très gros pourcentage de, par exemple, prends le cas des TDAH là, ici, là, qui font aussi de l'anxiété là. Tu sais, c'est quand même très souvent.
Ouais, c'est ça.
Je veux pas dire lié parce que ça va pas nécessairement ensemble, mais ça va souvent ensemble.
Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent corrélé là, vraiment. Puis là, mais là c'est la poule ou l'œuf. On sait pas quel qui est venu avant ou peut-être que les deux sont juste, ils ont toujours été ensemble. Mais tu sais, il y en a des fois que t'as de l'anxiété, fait que ça limite les symptômes d'un TDAH ou des fois, ben t'as vraiment un TDAH puis justement, c'est tellement difficile d'aller avec l'impact que ça a sur ton fonctionnement, mais là, ça génère de l'anxiété. Des fois, c'est l'anxiété qui impacte plus le fonctionnement que le TDAH lui-même. Fait que c'est dans notre mandat, justement, d'essayer d'adresser ces facteurs-là aussi. Parce qu'ultimement, on veut juste améliorer le fonctionnement de l'individu.
Vraiment. Puis, est-ce que vous faites, tu sais, c'est pas de la thérapie non plus, c'est plus psychologue, mais parce qu'on sait aussi que dès que ça touche, tu sais, ça fait partie de la santé mentale, là, le TDAH, entre autres. Dès que tu fais partie de cette catégorie de personnes-là, là, des neurodivergents, ta santé mentale peut être plus à risque. Les TDAH vont faire sont plus sensibles à faire des dépressions, etc. Donc, est-ce que justement, il y a une espèce de sensibilisation une fois que le diagnostic est fait, de dire faut que tu fasses attention à ça ou on rentre pas nécessairement dans le sujet?
Ben en fait, ça dépend. Il y a beaucoup de fois que je vais répondre, ça dépend. Ça dépend de l'individu. Si la personne, elle est vulnérable à l'anxiété ou à la dépression, tu sais, nous, on va reparler de son historique et tout, si vulnérable, mais c'est sûr que oui, on va l'intégrer dans notre intervention. Mais si jamais la personne elle a jamais eu d'anxiété ou elle a jamais eu de symptômes dépressifs dans le passé, c'est rare, là, je te dirais, mais si jamais ça l'arrive, on va pas creuser où est-ce qu'il n'y a pas vraiment. Mm-hmm. Tu sais?
Je comprends.
Mais oui, en général, on travaille sur la prévention aussi, pas juste l'intervention des symptômes présents. On va essayer de prévenir pour le futur.
Puis justement, ça me fait penser parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a posé la question, puis comme je dis, je suis pas médecin, je suis pas psychologue neuropsy. Si quelqu'un prend par exemple, la personne a des TDAH, puis elle prend des antidépresseurs, est-ce qu'elle peut prendre aussi des psychostimulants? T'sais, par exemple, est-ce que je peux prendre des antidépresseurs et mon Concerta, ou lequel est mieux? Puis là, j'imagine, t'sais, tout dépend toujours de la situation de la personne, on s'entend, mais t'sais, c'est deux médicaments qui sont pas loin, mais qui sont loin en même temps. T'sais, qu'est-ce qui est comme... Je sais pas si je clame un peu. Je veux pas dire priorité, parce que la priorité va toujours dépendre de l'évaluation, t'sais, de la personne, mais entre justement prendre les antidépresseurs sur leur terme ou prendre, par exemple, du Concerta.
Malheureusement, je suis pas en mesure de répondre à cette question-là, parce que je suis pas docteur. Puis, en général, les neuropsies vont pas se positionner lorsqu'on leur demande des questions comme ça. Ils vont toujours référer au docteur de famille. Donc, on va suggérer aux patients ou aux clients de parler à son docteur de famille, parce que, comme tu le dis, c'est du cas par cas. Ça dépend aussi du dosage.
Ouais, c'est ça,
de la dose, de la médication, puis il y a tellement d'autres variables, t'sais, d'un historique, s'il y a un historique d'abus dans le passé. Fait que c'est vraiment toutes des questions à demander aux docteurs de famille. Puis nous, les neuropsies, mais on travaille proche avec les docteurs de famille. Ouais. Donc, tant et aussi longtemps qu'on a la permission du client ou du patient de parler au docteur, ben on est en communication avec eux pour justement coordonner les traitements.
Ouais. Parce que vous faites le diagnostic officiel, puis après ça, vous repassez un peu le dossier au médecin. C'est le médecin qui fait vraiment la prescription du médicament en tant que tel. C'est pas vous.
Non.
Mais est-ce que c'est vous qui décidez quel type de médicament, dans le sens où je recommande au médecin Concerta, Vivance, Ritalin, peu importe, ou c'est le médecin par la suite?
Donc, nous, on va juste mentionner que le patient peut bénéficier d'une option psychopharmacologique, telle un psychostimulant, mais on n'est pas en mesure de dire Vivance, Concerta, Adderall.
C'est vraiment le médecin.
Exactement, c'est le médecin, justement à cause que c'est le médecin qui connaît l'historique médical. Nous, on ne connaît pas tous les détails, puis on n'a pas le droit, c'est pas dans nos droits en tant que neuropsy de faire ce genre de recommandations là autant spécifiques.
Vous, ça s'arrête vraiment au diagnostic.
Au diagnostic puis au suivi neuropsy.
Oui, aux stratégies.
Pour toute la médication, c'est le domaine du docteur, puis nous, on fait le reste.
Je comprends. Puis, tu as parlé un peu brièvement tantôt, mais si tu veux élaborer, des sortes d'attention, justement.
Oui. Fait que il y a plusieurs sortes d'attention. Il y a l'attention soutenue, donc ça, c'est ta capacité à garder ta concentration sur une tâche pendant de longues périodes. Okay? Dans le TDAH, ça, c'est une sorte d'attention qui va vraiment être différente, puis c'est du cas par cas. OK? Ouais. Donc, tu sais, il y a des gens, ça, c'est un des mythes, hein? Donc, ma fille, elle n'a pas un TDAH, elle est capable de se concentrer pendant de longues heures sur ses jeux vidéo, ou elle est capable de se concentrer pendant de longues heures à lire son livre, ou elle n'a pas un TDAH. Bon, OK. Souvent, avec un TDAH, il va avoir des périodes qu'on appelle du hyper-focusing. Donc, c'est des périodes où est-ce que les gens qui ont un TDAH sont capables de se concentrer et puis maintenir leur attention pendant de longs moments sur les choses qu'ils aiment. Puis sur les choses qui les stimulent.
Qui les passionnent,
Qui les passionnent, exactement. Donc, si tu l'aimes ton livre ou si tu l'aimes ton jeu vidéo, ben oui, tu vas être capable de te concentrer. C'est juste qu'un TDAH, c'est un genre c'est des différences au niveau des ressources attentionnelles. C'est pas que t'en as pas d'attention puis t'es pas capable.
C'est ça,
c'est des fluctuations, puis c'est juste que t'as moins contrôle aussi.
En tout cas, un débalancement un peu souvent que je dis, là, je sais pas si c'est le bon terme.
C'est ça, c'est que mobiliser tes ressources attentionnelles, c'est plus difficile pour toi qu'un autre individu. Fait que, par exemple, quand que t'es devant une tâche qui est plate, est-ce que t'es capable d'immobiliser tes ressources puis de te concentrer pendant de longs moments? Quelqu'un qui a un TDAH va avoir plus de difficultés. Quelqu'un sans TDAH va être capable de mobiliser ses ressources puis passer par-dessus l'ennui de la tâche.
Ouais.
Fait que ça, c'est l'attention soutenue. Puis souvent, ça, c'est relié avec ta tolérance à l'effort, ta tolérance à l'incertitude, ta tolérance aux choses plates. Puis, fait que c'est le stamina, qu'on appelle.
OK.
Fait que ça, c'est l'attention soutenue. Puis après ça, il y a l'attention sélective. Fait que ça, c'est ton habilité, justement, à contrôler ton attention sur certains stimuli, puis à ignorer les autres stimuli autour de toi. Fait que, tu sais, ça joue un peu là, sur ton, si t'es très distrait par les stimuli autour de toi. T'sais, si t'entends un son, est-ce que ça va tout prendre ton attention, puis après ça, tu vas ouais. juste regarder ça, puis après ça, tu vas avoir de la difficulté à revenir à la tâche. T'sais? Fait que ça, c'est ça. Fait que si t'es capable de contrôler ton attention, si je te montre tes stimuli, puis je te dis, bon, ben, focus sur, disons, cette personne-là. Est-ce que ça va te prendre du temps trouver cette personne-là où tu vas être distrait par les autres visages plus qu'une personne, tu sais? Une autre personne. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'attention sélective. Parce qu'il y a l'attention divisée. Donc, est-ce que tu es capable de maintenir ta concentration sur une tâche, tourner à une autre tâche, revenir à l'autre tâche, tourner à l'autre tâche? Est-ce que tu es capable de faire deux tâches à la fois? Donc ça, c'est une autre forme. Fait que là, évidemment, toutes les sortes d'attention, ils travaillent ensemble, mais on est capable de les isoler comme ça, puis voir quelle forme d'attention est plus affectée. Puis tu sais, la vigilance, c'est ça que je parlais aussi tantôt, là, ouais. J'ai appelé ça de l'attention sélective, mais la vigilance, c'est ton habileté à comme être alerte aussi autour de toi. Est-ce que tu es capable d'être alerte à un changement dans ton environnement, puis après ça, revenir à la tâche? Fait que c'est des choses comme ça. C'est assez complet, je te dirais.
Ouais. Au niveau... Pas pour rien que c'est une longue étude, là, dans le sens, c'est pas en 30 minutes qu'on peut faire un diagnostic, là.
Ouais, c'est ça. Puis au niveau du cerveau, encore, c'est difficile de savoir quels différents systèmes sont impliqués dans les différentes sortes d'attention, mais c'est vraiment comme les ressources attentionnelles, on les met ensemble, mais comme je t'ai dit, ils sont pas tous affectés de la même manière dans chaque individu.
C'est ça. Parce que tu peux avoir, par exemple, j'imagine, là, peut-être que tu vas me dire que non, mais j'ai l'impression que oui, tu peux avoir un TDAH, avoir le diagnostic, puis par exemple, l'attention sélective est quand même bonne, mais que les deux autres attentions, ça non. T'sais, j'imagine que c'est pas blanc ou noir, qu'il y a des variations dans chacune.
Mais c'est ça, exactement. Fait que c'est quelqu'un qui a un TDAH dans nos évaluations, ça veut pas dire que dans tous les tests attentionnels, ils les ont échoués. Ou ont des pauvres résultats dans tous les tests. C'est vraiment, en fait, ça c'est du cas par cas, encore une fois. puis ça dépend aussi des stratégies compensatoires que la personne a développées au cours des années. Il y en a qui sont bons à pallier ça. Il y en a aussi, il y a d'autres de leurs fonctions cognitives qui viennent comme, pas annuler, mais viennent contrôler pour certaines difficultés attentionnelles. Ouais. Quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel.
C'est ça que j'allais dire.
C'est ça. Il va devenir super fonctionnel malgré son TDAH, puis il va être capable de justement passer par-dessus certaines difficultés, puis des fois, il y en a qu'on verrait peut-être même pas dans nos tests. Ça m'amène à un autre point.
Ouais.
La neuropsychologie, donc, pour avoir un diagnostic de TDAH, tu n'as pas besoin d'avoir tous les tests, hein? Donc, t'es pas obligé d'avoir un neuropsy, tu sais, j'en ai parlé tantôt, le docteur de famille peut faire, mais même un neuropsychologue pourrait te donner un diagnostic sans faire sa batterie de tests. Parce que les seuls critères que tu as besoin, c'est d'avoir des symptômes, un certain nombre de symptômes, depuis l'enfance, dans plusieurs contextes. Fait que juste avec des questionnaires, tu pourras avoir un diagnostic. Ouais. Parce que t'as pas besoin d'avoir un score de tel sur cette fonction-là, etc. Il y a plus-value de faire une évaluation, justement, pour regarder tout ça.
Le diagnostic va t'aider à peut-être avoir encore plus de réponses, outre savoir si c'est le TDAH, mais justement voir, puis surtout les stratégies, là, je pense que c'est ça, de voir, bon, ben selon les types d'attention qui sont plus affectés chez toi, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Là.
Oui, c'est ça, exactement. Puis comment qu'on peut utiliser tes forces, surtout, pour t'utiliser tes propres forces à toi, justement, pour t'aider toi-même. Parce que le but aussi, c'est vraiment... T'sais, ça vient dans l'angle d'autodétermination, là, de comme aider la personne à s'aider elle-même. T'sais, puis de se sentir en contrôle aussi, parce que souvent les gens avec un TDAH vont dire, ben là, c'est mon TDAH qui fait ça, ou c'est mon TDAH. Ouais. Fait que ça vient un peu comme enlever un genre de pouvoir de cette personne-là à se
aider. La responsabilité un peu.
Exact. Mm-hmm. On veut nous aussi comme empower l'individu qui est devant toi à utiliser ses propres ressources, parce que la personne n'est pas stupide, la personne n'est pas lâche, c'est juste qu'elle a certaines difficultés, puis elle a aussi, surtout, beaucoup de force qu'elle peut utiliser.
Ça, c'est totalement vrai, puis on dirait qu'on a tendance à voir juste les côtés négatifs du TDAH, mais ça a tellement plein de bons côtés positifs aussi, là, si on se met à se concentrer là-dessus. Tu en as parlé brièvement, mais le hyper-focus, c'est souvent, tu sais, les gens TDAH, on est souvent très créatifs, tu sais, de l'énergie, il y a plein de belles qualités, là, que, justement, moi, j'essaie de focus là-dessus, puis de moins te concentrer sur le négatif, entre guillemets. Mm-hmm. Puis, justement, tu sais, pareil, dans le TDAH, il y a deux types, ben, plein de types, là, mais dans le sens, il y a l'hyperactivité plus physique et il y a l'hyperactivité cognitive, tu sais. Ça le dit un peu, mais tu sais, quelle différence tu peux peut-être nommer de ça, là?
Est-ce que tu parles, dans le fond, dans un TDA avec le H, tu parles qu'il y a deux différents types de H? Est-ce que c'est ça?
Ben, tu sais, je dis deux différents types, mais c'est peut-être pas dit comme ça, mais dans le sens où il y en a que c'est plus l'hyperactivité physique, dans le sens où ils sont incapables de rester assis, puis il y en a que c'est plus comme, c'est dans la tête que ça arrête jamais, là.
OK, OK. Ouais. Fait que nous, on les catégorise pas vraiment comme ça. Nous, l'hyperactivité ou l'impulsivité, ça demeure l'impulsivité ou l'hyperactivité, peu importe si c'est cognitif ou physique, mais oui, t'as raison, ça va pas toujours se manifester de la même manière. Mm-hmm. Donc, tu peux être une personne parce que c'est hyperactif et impulsif. C'est pas juste le H. Il y a comme un I qui n'a jamais été ajouté, mais il est là, le I, donc l'impulsif.
Puis le impulsif, tant qu'à moi, il est quasiment pire que l'hyperactivité. En tout cas, moi, dans mon cas, le I me fait plus de problèmes que le H. Ouais.
mais je me demande si ça a un fondement historique, tout ça, parce que, tu sais, le TDAH, c'était beaucoup plus, du moins avant, le prevalent, donc plus commun chez les garçons. Puis, tu sais, les garçons, c'était un gros H. C'était physique, leurs symptômes, donc pas capables de rester dans leur chaise, couraient partout, nanana. Donc, je me demande si c'est à cause de ça que c'est le H, mais je sais pas. C'est une bonne question que je me pose, mais tu peux justement être impulsif cognitivement. Donc, quand tu prends des décisions super vite ou tu réagis super vite à des stimuli ou t'es pas capable d'inhiber ton comportement. Ouais. T'as juste envie de le faire automatiquement, mais tu t'inhibes pas toi-même. Mm-hmm. Donc, ça, c'est l'impulsivité qu'on met avec l'hyperactivité, donc dans ce H-là. Puis, il y en a beaucoup chez les gars, mais chez les filles aussi, là. Donc, même si ça paraît pas quand on regarde la personne à l'intérieur, peut-être qu'elle a le I, là.
C'est ça. Surtout, comme les petites filles, on dirait qu'on se fait plus apprendre jeune à, t'sais, assis-toi, dessine, sois calme. Fait qu'on le remarque moins côté physique, des fois, mais dans le mental. T'sais, moi, je me suis souvent fait dire ça dans ma vie. Ben, quand j'étais jeune, c'était très physique, là. Mais, t'sais, en ce moment, les gens me disent, mais pourtant, t'es quand même calme, entre guillemets, pour une TDAH. Je me fais dire, je suis calme, mais t'es capable de rester assis. Je suis comme, moi, mais t'es pas non plus, je suis pas un slinky qui revole partout. T'sais, ça, je dis au monde, je suis comme, c'est dans ma tête que tu veux pas être en ce moment.
Ouais, ben le genre de H, on va le voir chez l'enfant, la fille avec souvent ça va être sur les professeurs qui vont rapporter que la fille est très verbose, donc elle va parler dans le cours, c'est impossible d'arrêter de la parler. Fait que ça c'est une forme du H chez l'enfant fille. Mais l'affaire, c'est qu'avec les adultes, je pense que t'as apporté un beau point. Tu l'as toujours toute ta vie, le TDAH, mais le H, il devient beaucoup plus contrôlé. L'impulsivité, elle devient beaucoup plus contrôlée avec les années. Fait que l'inattention, elle va demeurer, mais le H, il va comme plus se calmer parce qu'on développe des outils compensatoires, puis aussi, ben, notre cerveau, il devient, tu sais, ça grandit, puis quand on est jeune, mais il est encore immature, notre cerveau, donc...
Oui, ben c'est ça, avec la maturité.
C'est ça, la maturité au niveau du cerveau, fait qu'on est plus capable de s'inhiber quand on est vieux, quand on est plus âgé, donc à l'âge adulte. On est capable de plus s'inhiber, donc contrôler le H, contrôler le I.
Ouais.
Puis, je veux juste dire aussi, là, parce que là, je parlais d'humeur tantôt, d'anxiété, mais j'ai pas parlé de traits de personnalité. Mais des traits de personnalité chez certaines personnes peuvent faire des fois penser à un TDAH. Donc, des gens qui sont spontanés, ça, des fois, ça peut penser comme quelqu'un d'impulsif, mais c'est différent. Ouais. Fait que quelqu'un qui décide, bon, moi, là, cette fin de semaine, là, je pars à Ibiza. C'est une décision de même.
Ouais.
Et ça, c'est de la spontanéité. Ça veut pas nécessairement dire que la personne est impulsive. Tu sais, des fois, c'est des traits de personnalité comme ça qu'il faut faire attention, qui peut imiter.
Ouais.
Mais on s'entend que c'est comme une mode de TDAH en ce moment. Fait que,
je comprends pas ça. Ça pourrait être un autre débat, là, mais autant que, tu sais, moi, je vis très bien avec mon TDAH depuis quelques années. Je décide de focusser sur le positif, pas le négatif, puis je veux justement sensibiliser les gens à ça, avec le podcast, entre autres. Mais en même temps, c'est pas on va dire les vraies affaires, c'est pas cool, là. C'est des difficultés, là, tu sais. Après ça, oui, tu peux focusser sur le positif, puis tu peux te mettre plein de bonnes choses, puis tu sais, moi, ça m'a pas empêché de lancer ma business, faire ce que je voulais dans la vie, mais ça reste des difficultés au quotidien, des larmes, des incompréhensions. Fait que je comprends pas les gens qui se disent « Pourquoi tu voudrais être ça si tu l'es pas? » Ça, c'est clairement plus facile de pas l'être, là. Fait que je comprends pas cette mode-là, là. Ça me fâche, puis ça me... En même temps de me fâcher, ça me... C'est de l'incompréhension, là.
Ouais. Non, mais je comprends pourquoi tu peux te sentir de même, absolument, parce que moi, je pense que ça vient du fait que les gens vivent beaucoup de difficultés, puis ils veulent se sentir validés. Donc, ils veulent essayer de trouver une explication pour leurs difficultés, se sentir validés. Tu sais, c'est pas moi qui les organise, je dois avoir un TDAH.
Ouais.
Tu sais, fait que ça vient comme expliquer.
Pour prendre leur responsabilité.
Ouais, c'est ça. Mais là, avec en plus TikTok, puis surtout les mythes qui sont en ligne, ça l'a pas. Ah. D'ailleurs, tu préfères un épisode là-dessus, c'est sûr, de comme toutes les mythes qu'on voit, là, des gens de « Ah, tu fais ça quand t'as un TDAH », puis là, ils montent une petite vidéo de quelque chose qui est complètement pas un symptôme d'un TDAH, mais peut-être juste corrélé avec, puis ça l'arrive dans certains individus, mais pas d'autres.
Ben, c'est ça.
C'est ridicule. Des fois, c'est
dans ça.
Tout le monde vit.
Ça, c'est fou, le nom, les mythes, puis... C'est les mythes ou les choses qu'on se fait dire aussi, là, c'est des affaires comme « Ah, oh, je pense que je suis devenue TDAH ». Tu peux pas devenir, ou comme je disais tantôt, « Ah, oh, moi, je le suis plus, mais je l'étais ». Non, c'est pas comme une maladie que t'as guérie ou que tu l'as attrapée en cours d'âge, là, tu l'es ou tu l'es pas, puis il y a pas de juste de mesure, puis non, il y a beaucoup de mythes, parce que probablement qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent, justement. Puis ça a été longtemps. Ça fait pas longtemps qu'on en parle, en fait, là. Moi, quand j'ai été diagnostiquée jeune, c'était comme, même au début, ils ne voulaient même pas dire que c'était ça, parce que justement, ils disaient, vu que j'étais une fille, c'est pas la même chose. C'était plus, ils disaient que c'était chez les gars, puis ils regardaient plein de choses, mais c'est vraiment... on commence à en parler un peu plus, mais même là... Moi, le trois quarts de mes amis, il a fallu que je leur explique vraiment c'est quoi un TDAH, parce qu'il est comme « Ah, ben t'as de la misère à te concentrer. » Je suis comme « Non, mais c'est vraiment pas juste ça, là. »
Ouais, c'est ça. J'ai tellement l'impression qu'il y a eu tellement plein de psychoéducation maintenant à la population sur c'est quoi un TDAH, que là, le monde, ben, il s'auto-identifie à ça, s'auto-diagnostique. Puis je peux voir comment que, tu sais, ça les valide eux, mais ça l'invalide les gens qui ont vraiment un TDAH.
Ben, c'est ça. Moi, ça me fâche à chaque fois, parce que ça fait en sorte que, ben, des gens comme moi, qui ont un diagnostic, puis qui vivent avec ça depuis des années, toute notre vie, on est déjà, en tant que neurodivergent, on se sent déjà très souvent seul. On l'a compris très jeune qu'on est différent des autres, qu'il faut travailler souvent beaucoup plus fort que les autres pour arriver au même résultat des fois. Fait qu'on est déjà, on se sent déjà un peu invalidé par la société. Si en plus, faut que les neurotypiques disent « Ah ben nous, on est comme tout un peu aussi. » Ah, ça, c'est cette phrase-là. Tout le monde l'est un peu. Comme ça, là, moi, mon
TDAH.
Dis pas ça, un TDAH impulsif, il va te sauter à la gorge, là. Genre, tu sais, c'est comme, si tu veux voir c'est quoi de l'impulsivité, là, tu vas voir, là. Tu sais, c'est comme, non, ça me... Fait que c'est sûr, ça, les gens, puis moi, j'ai eu la conversation avec des gens proches de moi, justement, à un moment donné, disaient, ben, quand vous dites des choses comme ça, je sais que c'est pas méchant, mais ça m'affecte pour telle raison, tu sais, puis je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire, puis de remettre un peu gentiment, mais les gens à leur place quand ils font des commentaires comme ça, parce qu'il y en a qui vont dire ça pas méchamment, mais ça va affecter aussi, là.
Oui, c'est ça, vraiment. Puis, tu sais, je pense que on est tous un peu inattentifs, OK? Donc, on a peut-être toutes certaines difficultés avec l'attention. Ça dépend qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ça, tu sais, ça dépend de ton humeur, ça dépend de l'anxiété. Fait que oui, on a toutes des périodes où est-ce qu'on peut être inattentif, mais on n'a pas des périodes où est-ce qu'on est TDAH. Le monde, il mélange vraiment beaucoup l'inattention avec le TDAH. C'est comme si...
La motivation aussi. Talent.
Oui, c'est ça. Il y a la motivation. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Ça, c'est un plus. Ça. Si t'es pas motivé, c'est sûr que tu seras pas attentif.
Exact.
Pas concentré. Fait que les problèmes de motivation aussi, c'est très grand. Tu sais, surtout la COVID, les gens sont devenus, en général, démotivés vraiment.
Ouais. Perte de repères aussi, là.
Perte de repères, exact. Puis là, leur stratégie qu'ils utilisaient, ben, les fallait tout qu'ils en retrouvent de nouvelles. Fait que, tu sais, toute leur structure a changé. Fait que tout le monde est un peu déboussolé. Il fallait qu'ils se retrouvent là-dedans. Fait que c'est pour ça que les gens étaient comme, mais voyons, je suis TDAH. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation au niveau de la demande en neuropsychologie.
Ouais.
Mais puis peut-être aussi justement une augmentation au niveau de comme ben, les TikTok ou ouais. la misinformation qui se promène, la désinformation qui se promène partout là.
Mais pourquoi tu penses aussi plus le TDAH que le TDA? Moi j'entends plus les gens dire ah oh, je suis TDAH que TDA. Tu sais, ouais. On dirait que le H attire plus les gens puis pour je comprends ouais. pas.
Fait que TDA, c'est un vieux terme, on l'utilise pas vraiment. C'est comme un terme qu'on utilise couramment là, dans la vie de tous les jours pour dire que j'ai l'inattention, mais j'ai pas l'hyperactivité.
Pas l'hyperactivité.
Mais un diagnostic TDA, ça n'existe pas. Ça va être TDAH, spécifiquement inattentif, ou TDAH avec hyperactivité. Fait que tu vas avoir TDAH, c'est ça le terme. Mais après ça, il y a trois types. Fait qu'il y a inattentif, il y a hyperactif ou il y a combiné. Fait que c'est ça.
Tu vois, mais moi, je savais pas, ben, vu que j'ai le H, moi, dans la tête, j'étais comme, je suis TDAH, puis ma mère et mon frère, eux, ont pas le H, fait que j'étais comme, eux, ils sont TDA. Mais dans le fond, ils sont TDAH sans le H.
Exact. Ils sont TDAH, inattentif. Dans le fond, spécifiquement inattentif.
Ah, tu vois, mais moi, j'en ai appris. Mais parce que, tu sais, on l'entend, mais on l'entend moins, puis... Ouais. C'est ça, mais ok, c'est peut-être pour ça aussi que le monde dise plus TDAH ou comme tu dis, on dirait qu'il y a aussi la mode, les gens aiment dire qu'ils sont TDAH parce que c'est comme si les gens vrai qu'ils pensent que ça les rend le fun parce que tu sais, ils pensent tout qu'un TDAH, ben, c'est parce qu'on a plein d'énergie puis on est tout le temps de bonne humeur, j'ai l'impression, là, tu sais. Fait que c'est comme un peu ah, oh, c'est le fun, t'as plein d'énergie. Hein.
Ouais, c'est ça.
Les gens le voient un peu comme ça. Là.
Ouais, c'est ça. Moi aussi.
C'est fou. ouais, non, c'est ça, exact. Puis tu m'avais parlé aussi de quelque chose lors de notre première discussion, du double exceptionnel.
Mm-hmm.
Est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est?
Ouais, fait que je suis pas du tout experte dans ce domaine-là, mais double exceptionnel, c'est un terme qu'on utilise pour les individus qui ont un TDAH avec un bon potentiel intellectuel. OK? Donc, c'est des gens qui... je vais pas dire qu'ils sont doués parce que la douance, ça c'est spécifique, c'est différent, mais c'est quelqu'un qui a un bon potentiel intellectuel avec une difficulté d'apprentissage.
Comme... Est-ce que c'est comme le haut potentiel ou c'est?
Ben haut potentiel, c'est comme une douance, ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que ça va être quelqu'un avec un bon potentiel intellectuel. Là, faudrait que je revérifie. Là, tu sais, il y a des critères. Mmh. C'est vraiment un terme qui est. C'est pas tout le monde qui l'utilise.
Ouais.
Ça devient populaire en ce moment. C'est pas toutes les neuropsies qui vont le donner, c'est pas toutes les neuropsies qui sont à l'aise avec la littérature là-dessus. Fait qu'il y en a.
Il y a comme pas encore assez d'études là-dessus, dans le fond.
Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Fait qu'il y a pas assez d'études là-dessus, même juste la douance elle-même, là, de diagnostiquer un enfant comme surdoué, ça aussi, c'est pas toutes les neuropsies qui vont le faire. Tu sais, il y a de la littérature là-dessus, là, il y a beaucoup plus de recherches qui se fait là-dessus. Fait que ça s'en vient, ça, ces termes-là. Mais c'est ça, ben faut être certain de pas essayer de quand tu veux aller chercher ce genre d'évaluation là, faut que tu demandes au neuropsy si c'est le genre d'approche qu'ils prennent ou le genre d'évaluation qu'ils font parce que c'est pas tout le monde qui fait ça.
OK, fait que le double exceptionnel ça serait d'être TDAH et d'avoir un peu du potentiel surélevé si on peut dire ça.
Ouais, c'est ça exactement. Fait que ton potentiel il est pas juste dans la moyenne, il serait comme puis peut-être même pas dans la moyenne élevée, mais il serait vraiment en haut de la moyenne élevée. Mm-hmm. Peut-être même dans le rendement supérieur. Mais don't quote me on this.
Non, mais tu sais, on avait changé un peu, parler, puis tu sais, c'est ça, le haut potentiel, c'est des fois des choses que les gens parlent aussi, puis c'est encore, si on pense que le TDAH n'a pas encore beaucoup d'informations, ça, il en a encore moins, là, c'est encore...
Exact. Ouais, c'est ça.
C'est
exact.
Difficile clairement à évaluer vraiment qu'est-ce qui est vraiment un haut potentiel ou pas là, tu sais, outre le QI, mais c'est parce que tu peux avoir du potentiel dans autre chose qui est pas.
Ouais. Parce qu'un
test QI, c'est évalué sur à peu près les mêmes types d'habiletés là, les mêmes types d'intelligence, mais tu sais, je pense que tu peux sûrement avoir un haut potentiel dans quelque chose de plus pratique, tu sais, puis.
Ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est comme le débat dans le domaine de la douance puis dans le haut potentiel. Mais honnêtement, je pense que le terme double exceptionnel, c'est vraiment, ça a été développé parce que les gens qui ont un TDAH, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons à l'école. Ça aussi, c'est un mythe.
Non. Ça, c'est un gros mythe, là.
Vraiment, tu peux être bon à l'école, mais avoir un TDAH, pour ceux qui ont développé ce terme-là, parce que il y a des gens qui pensaient, mon enfant a sûrement pas TDAH, regarde, il y a des A dans tous ses cours. Fait que oui, tu peux avoir un TDAH, puis tu peux avoir un haut potentiel intellectuel, puis ouais. Ben le pognostic, ben il est sûrement meilleur dans ce cas-là parce que ouais. t'as les habiletés, t'as les ressources pour compenser pour tes problèmes attentionnels.
Ouais, puis tu sais, on a parlé un peu tantôt, mais tout va dépendre aussi de l'environnement parce que moi, justement, j'ai eu mon diagnostic jeune, mais j'avais relativement des bonnes notes. Tu sais, j'avais pas nécessairement des 100% partout, mais j'avais quand même des bonnes notes, surtout les matières que j'aimais. Tu vois, mathématiques fonctionnaient pas, fait que ça allait pas du tout, mon cerveau. Il était bloqué à ça, mais c'est ça, tu sais, j'ai quand même le TDAH, j'avais des bonnes notes, mais les gens me disent tout le temps, ouais, mais pourtant, t'avais des bonnes notes, c'est comme si c'était un ou l'autre, là, ça, il y a beaucoup de... Mais ce que je voulais dire par là aussi, j'étais en train de perdre mon idée classique, mais, tu sais, moi, j'ai mes parents ayant un diagnostic jeune, mon frère aussi, ma mère en avait un, tu sais, j'ai eu la chance d'être dans une famille où j'avais des tuteurs, j'avais beaucoup d'encadrement, tu sais, même très jeune, moi, j'ai eu d'encadrement à l'école aussi, donc c'est sûr que ça l'aide aussi, ça, dans les notes, tu sais, tu peux pas regarder juste les notes si c'est parce que, tu sais, j'avais des bonnes notes, mais je mettais aussi beaucoup plus de temps hein, que d'autres personnes.
Oui, c'est ça. Fait que la motivation aussi, encore, elle a un gros rôle là-dedans. Tu mettais du temps, tu mettais du travail pour, justement, atteindre ton plein potentiel. Fait que c'est ça, l'affaire, c'est que des fois, le TDAH va venir un peu ralentir la personne ou bloquer la personne à atteindre son potentiel. Fait que c'est pour ça que des fois, bon, on appelle ça double exceptionnel. C'est justement pour reconnaître que la personne n'est pas lâche, la personne n'est pas stupide, elle a juste des ressources attentionnelles qui sont plus difficiles à contrôler ou sont plus limitées.
Puis souvent même juste un manque de stratégie, tu sais, c'est pas que t'es pas capable, c'est juste te mettre, souvent c'est ça, moi j'essaie d'expliquer aux gens, le TDAH, c'est pas que t'es pas capable, c'est juste pas comment te mettre en action. C'est comme si tu comprends la route qu'il faut que tu prennes, tu sais qu'il faut que t'embarques dans la voiture, mais t'es juste pas capable de, tu sais, de démarrer la voiture, mais tu sais, tu comprends toutes les étapes, mais mettre les clés, ça...
Ouais.
Ça fonctionne pas, tu sais, souvent même un peu je l'image, je le décris aux gens.
C'est vraiment une très belle métaphore, je trouve. Puis oui, c'est ça, c'est un problème au niveau de la mobilisation. Fait que t'es capable, tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais là maintenant, comment que tu vas mobiliser toutes tes stratégies, tous tes outils, te structurer, te planifier, parce que le TDAH, c'est pas juste un problème au niveau de l'attention, c'est un problème aussi au niveau de l'organisation, de la planification. Des fois, il y a même la mémoire de travail, qui est un terme qu'on utilise pour dire la capacité à garder l'information dans ta tête puis à la manipuler. Fait que tu sais, garder ta checklist mentale, on appelle ça. Fait que toutes ces fonctions-là sont toutes affectées dans un TDAH. Fait que oui, c'est ça, c'est pas juste que t'es inattentif, des fois, faut juste que tu te mobilises puis t'es comme, tu t'es coincé. Fait que c'est pas que t'es pas motivé, c'est pas que t'es lâche, c'est juste que tu te mobilises pas de la bonne manière.
Exact, puis tu sais, dans les mythes aussi, de penser que tous les TDAH sont automatiquement désorganisés, parce que moi, je me fais dire, ah, mais pourtant, t'es organisé pour une TDAH, tu dois pas tant l'être. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai des années de stratégie, justement, et de professionnels qui m'ont aidé. Puis comme je dis souvent aux gens, enlève-moi ma routine, mon agenda, que tout est calculé, tout est compté. J'ai une façon de tout mettre les choses à la même place. Enlève-moi ça. Là, tu me trouveras plus organisé. Mais c'est fou qu'automatiquement, les gens, c'est « Ah, ben t'es organisé, fait que tu dois pas vraiment l'être. » Tu sais, comme si, justement, en tant que TDAH, on serait jamais capable de s'améliorer aussi sur ces traits-là. Là.
Ouais, c'est ça. C'est pas un death sentence avoir un TDAH. Là, t'es coincé là, toute ta vie. Tu peux trouver des stratégies compensatoires, des techniques comme ça. Puis je pense juste que les gens en général, ils comprennent pas vraiment c'est quoi un TDAH. C'est qu'ils oublient que c'est un trouble neurodéveloppemental, que c'est là depuis l'enfance, que c'est pas parce que t'es pas capable de te concentrer. C'est beaucoup plus complexe. Puis là, maintenant, avec toutes les mythes, avec toutes les corrélations qui là sont pris comme des symptômes, puis là, avec les gens qui veulent tout être TDAH. Fait que je pense que c'est juste qu'on a oublié vraiment c'est quoi. Puis c'est rendu trop populaire, c'est rendu invalidant pour les gens qui ont vraiment un. Puis il y a beaucoup, beaucoup de mythes qui doivent être brisés.
C'est totalement. Puis justement, dans le dernier petit sujet, on aurait clairement pu parler des heures, les médicaments. Tu sais, je veux pas rentrer dans les médicaments parce que je sais que c'est pas ça dans le sens de ta spécialité, mais... il y a beaucoup de neurotypiques, appelons-les comme ça, qui, moi, ça m'est arrivé très souvent dans ma vie de me faire dire « Ah, ben moi aussi, j'ai pris, par exemple, Concerta Vivance, peu importe ce que c'est, là, puis j'étais plus concentrée, fait que je dois l'être. » Tu sais, que les gens comprennent pas que si ça te fait un effet, c'est pas que tu n'as besoin, c'est juste peu importe, ça va te faire un effet, mais T'sais, nous, ça nous fait pas le même effet, t'sais, comme, t'sais, je sais que t'es pas justement comme spécialisé dans les médicaments, là, étant donné que t'es pas médecin, mais est-ce que t'es capable de expliquer un peu la différence que ça vient faire dans t'sais, un cerveau de quelqu'un qui en a besoin versus quelqu'un qui n'en a pas besoin?
Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. Puis oui, tout le monde peut en bénéficier des psychostimulants. Okay. Donc, ça arrive très couramment qu'à l'université, il y a des docteurs ou des gens en droit qui vont se trouver des médicaments, des stimulants pour les aider en période d'examen. Puis oui,
il y a un gros marché noir de ça. Hein?
Oui, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Puis oui, ça aide vraiment la majorité des gens à être plus concentrés, mais ce n'est pas le test qui va dire si c'est un TDAH. Non, ça ne veut pas dire que ça améliore ton attention que tu avais un débalancement au niveau des neurotransmetteurs du cerveau, là, du tout. Fait que oui, ça fonctionne sur tout le monde, puis avec un TDAH, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va juste te ramener à un baseline où est-ce que tu vas pouvoir fonctionner. Fait que oui, tu vas avoir une augmentation au niveau de tes ressources attentionnelles, puis oui, tu vas sentir beaucoup plus capable de travailler, mais c'est juste que ça t'a ramené à ton baseline.
Ouais. C'est ça, je dis souvent, ça te ramène comme au statut normal, entre guillemets, que, mettons, on prend, tu sais, quelqu'un qui n'a pas de TDAH, qui, mettons, moi, je l'imagine de même, comme, mettons, qui est à 100% d'attention. Tu sais, personne n'est jamais à 100%, là, mais mettons 100%, puis mettons, tu sais, nous, on est comme à 80, ben ça nous amène à 100%, mais un non-TDAH, lui, ça va peut-être l'emmener à 120, 130 avec le médicament. Fait que, tu sais, il va sentir quelque chose, mais ça veut pas dire qu'il en a besoin.
Oui, c'est ça. Ben, je sais pas si on peut le quantifier comme ça, mais oui, moi, j'aime.
Je l'imagine aux gens, juste je mets des chiffres, puis je dis, des chiffres n'importe quoi, là, tu sais, c'est loin d'être ça, mais...
Oui, puis avec chaque individu aussi, là, le médicament va pas agir de la même manière, mais oui, moi aussi, je le conceptualise comme ça.
C'est ça. Parce que moi, à l'université, je me suis fait dire qu'il y avait un gros marché noir, puis les gens me disaient, mais je suis tellement plus concentrée, tout ça, mais c'est normal, tu sais. C'est comme si tu prends un café, que tu sois fatigué ou pas, ça va te faire un effet. Tu n'as pas besoin d'être fatigué mort pour que le café te fasse un effet. C'est normal, là, tu mets quelque chose dans ton corps. Là.
Exactement. Mmh. Exactement, oui. Puis j'ai mentionné là, les gens en droit puis en médecine, là, mais il y a d'autres domaines aussi là, où est-ce que les gens sont propices à le prendre. C'est juste c'est plus des domaines où est-ce que tu dois être hyper performant. Fait que tu veux super t'aider, donc il y a des gens qui...
Ah, malheureusement, je pense qu'il y en a dans tout... Moi, j'ai étudié en business, là, puis c'était fort aussi, là. C'est comme le nombre de fois, moi, je me suis fait demander de vendre mes médicaments, puis je suis comme, mais c'est parce que si je t'ai vend, je les aurais plus pour moi, ça fait aucun sens, là.
Ouais.
C'est ça, comme, non seulement déjà...
Ça, puis ça peut être dangereux aussi, on connaît pas l'historique... De la personne, si elle a une historique d'abus de substances aussi, ça peut être dangereux
pour certaines personnes. Puis tu l'as dit un peu tantôt, mais en tant que TDAH, on est suivi aussi par nos médecins. Moi, à chaque année, je dois revoir mon médecin pour dire un peu tout, mais en lien aussi avec, par exemple, mon concerto, elle doit tester ma pression parce que ça peut affecter la pression. Il y a plein de choses. Fait quelqu'un, justement, qui n'a pas besoin, qui n'est pas suivi, puis
ça peut être
dangereux. C'est quand même... C'est un médicament fort, là, on va se le dire. Là.
Mm-hmm, ben oui.
Puis ils font pas tous les mêmes effets. Là. Je sais pas si tu en as entendu parler, puis en même temps, je veux pas trop rentrer là-dedans, là, mais beaucoup de gens m'en ont parlé, puis j'ai vu des articles, whatever. Là, je veux pas dire études parce que je suis pas sûre des sources. Aux États-Unis, que l'Adderall, ils veulent plus prescrire, que ça aurait créé des très grandes dépendances chez les gens.
Ah oui, OK. Ouais. Je n'étais pas au courant de ça parce que, dans le fond, moi, ce que je connais de la recherche en général, peut-être que ça allait évoluer, mais tu sais, c'est pas... c'est que le risque de dépendance dans un TDAH, c'est beaucoup plus grand que la
population. Mais ça, sur toute substance, là, tu sais, alcool, drogue...
Oui, mais c'est ça, mais c'est pas à cause de la médication. C'est à cause du TDAH lui-même.
Oui, c'est de l'impulsivité, là.
Ça. Exactement, c'est ça. Vu que t'es plus impulsif, t'es plus... tu vas essayer des nouvelles expériences, tu vas moins t'inhiber, tu vas prendre des décisions un petit peu plus qu'on considérerait irrationnelles dans le moment parce que tu peux pas te désinhiber dans le moment présent. Fait que c'est comme un genre de mythe de ma connaissance que c'est la médication qui augmente les risques, mais ça veut pas dire que là, la recherche, elle va pas changer. Je veux dire, la recherche, elle évolue tout le temps. Donc
puis ça serait pas la première fois... dans l'histoire des sciences qu'un médicament est enlevé des tablettes parce que finalement, c'était peut-être plus le bon, là. Il y en a un nouveau aussi qui commence à être précis, je connais les gens, mais j'oublie toujours, là. C'est comme, il y a des chiffres ou des lettres, là, attends, c'est-tu bifontin ou quelque chose comme ça? Ça fait-tu du sens?
Je pourrais pas te dire.
Il y a comme un nouveau, en tout cas, mais c'est ça.
OK.
Mais ouais, c'est bien. Ça aussi, c'est un autre monde. Puis comme tu as dit un peu tantôt, d'une personne à l'autre, moi, j'ai déjà essayé la vivance, ça me faisait pas du tout. Puis j'ai des amis TDAH qui adorent la vivance. Qui adorent, ça fait drôle à dire, là, mais dans le sens que eux, ça leur fait un bon effet. Tandis que je connais d'autres gens qui aiment pas le Concerta, puis moi, Concerta, c'est celui qui fonctionne le mieux. Ça aussi, c'est
ouais,
juste c'est ça. Ça aussi avec ton médecin, de trouver la bonne molécule et après ça, la bonne quantité. Là.
Exactement. C'est vraiment, honnêtement, essai-erreur au début. Tu vois, la personne typique avec un TDAH va essayer plusieurs médicaments, plusieurs doses, jusqu'à temps qu'elle trouve la recette gagnante pour elle. Ouais.
Super intéressant. En tout cas, on aurait pu parler vraiment plus longtemps. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je suis sûre que ça va avoir aidé beaucoup de gens entre le public, privé. On a parlé un peu de plein de choses. Justement, si les gens, tu sais, ils ont aimé justement tout ce que tu as dit. Tu fais déjà un peu des consultations, tu sais, même si tu n'as pas encore gradué. Est-ce que il y a une clinique? Est-ce que tu as le droit d'en parler ou faut que ça reste plus privé?
Ben en fait, si jamais des gens décident de sont intéressés à commencer un processus en neuropsychologie ou privé, je suggère d'aller sur l'Ordre des psychologues du Québec, donc le site de l'OPQ. Puis, il y a une liste de tous les psychologues cliniciens, mais aussi des neuropsychologues. Il y a aussi l'Association québécoise des neuropsychologues du Québec qui ont un site, donc qui peuvent trouver des neuropsychologues là, ou bien d'en contacter plein. Moi, c'est ce que je suggère. Donc, prenez une liste des neuropsychologues autour de vous, regardez leur bio, appelez-en plein, regardez c'est quoi leur disponibilité, puis aussi là, demandez quel genre d'évaluation, essayez de voir si c'est un bon fit pour vous.
Ouais. Puis peut-être que tu sais pas aussi, là, parce j'imagine le diagnostic reste le même, mais c'est peut-être différent parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens de la France, Belgique qui écoutent le podcast, étant donné que c'est francophone. Est-ce que tu sais un peu si c'est le... Ben clairement, ils ont des neuropsy aussi dans ce pays-là, mais ça doit être un peu, après ça, privé-public, on ne sait pas, là, selon le système de santé là-bas. Mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Ils doivent avoir un ordre là-bas, puis ils peuvent contacter un peu le même genre de test.
C'est différent un peu de la processus. On n'utilise pas toutes les mêmes genres de tests. C'est le même genre d'évaluation. C'est juste qu'on a nos préférences pour les tests. Puis les normes aussi, bien, sont différentes. Parce que nous, on a des normes canadiennes. Nous autres, on leurs normes. Fait que oui, ils ont des tests qu'ils préfèrent. Mais oui, c'est le même genre d'évaluation. Là, pour l'ordre, ça dépend toujours des pays.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Puis aussi, des fois, ça dépend. C'est pas toutes des PhD. Des fois, ils ont une maîtrise. Ça change vraiment de pays en pays, je te dirais.
C'est ça. OK, d'aller se renseigner un peu là-dessus. Mais ultimement, ça serait à peu près le même genre, tu sais, d'évaluation au final. Là.
Oui.
C'est peut-être pas aussi long, peut-être plus long, mais ça reviendrait au même.
Oui, exact, c'est ça.
Super. Bon, ben je te remercie beaucoup merci pour ton temps. J'ai hâte que les gens puissent écouter cet épisode-là. Je te remercie beaucoup.
Merci à toi.